Le long chemin pour aboutir à la réforme du système de santé nous a occupé une bonne partie de l'été. Tandis que la législation continuait lentement son parcours dans les couloirs du Sénat, nous restions à l'affût de la moindre opportunité susceptible de faire avancer le processus. Depuis le sommet du mois de mars à la Maison-Blanche, les divers membres de mon équipe chargés des questions liées au régime d'assurance santé et des aspects législatifs de l'opération avaient participé à d'innombrables réunions de travail sur le sujet au Capitole. À la fin de la journée, ils venaient au rapport dans le bureau ovale, tels des commandants harassés de retour du front, pour m'informer de l'évolution de la situation sur le champ de bataille. La bonne nouvelle, c'était que les chefs de groupe démocrates, Baucus et Waxman en particulier, se démenaient pour élaborer des textes de loi susceptibles d'être validés par leurs commissions respectives avant la traditionnelle trêve estivale du mois d'août. La mauvaise nouvelle, c'était que plus le nombre de personnes impliquées dans les détails de la réforme augmentait, plus les avis divergeaient quant à la teneur du texte et la stratégie à adopter, et pas seulement entre démocrates et républicains, mais aussi entre représentants et sénateurs démocrates, entre nous et les démocrates du Congrès, et même au sein de ma propre équipe. La plupart des désaccords portaient sur la question de savoir comment générer une combinaison d'économies budgétaires et de nouvelles recettes pour financer l'extension de la couverture maladie à des millions d'Américains jusqu'ici privés d'assurance. En raison de ses propres inclinations et de son intérêt personnel à trouver un accord bipartite, Baucus espérait éviter toute disposition pouvant être apparentée à une hausse d'impôts. Avec son équipe, il avait ainsi procédé à l'estimation du bénéfice que les profits dégagés par l'afflux de nouveaux patients assurés pourraient représenter pour les hôpitaux, les compagnies pharmaceutiques et les assureurs. Et il s'était appuyé sur ses calculs pour négocier auprès de chaque branche d'activité le versement de plusieurs milliards de dollars d'avance sous la forme de frais ou de réduction des remboursements du programme Medicare. En contrepartie, Baucus était prêt à faire certaines concessions politiques. Par exemple, il avait promis aux lobbyistes de l'industrie pharmaceutique que le projet de loi ne comporterait pas de dispositions permettant la réimportation de médicaments depuis le Canada, une proposition démocrate très populaire qui mettait en lumière la façon dont les systèmes de santé gérés par les pouvoirs publics au Canada et en Europe se servaient de leur marge de négociation colossale pour s'entendre sur des prix beaucoup plus bas que ceux pratiqués par les géants pharmaceutiques aux États-Unis. D'un point de vue politique et personnel, j'aurais trouvé bien plus satisfaisant de nous attaquer de front aux compagnies pharmaceutiques et aux compagnies d'assurance pour voir si nous étions capables de les faire plier. Elles étaient très impopulaires auprès de l'opinion publique, et à raison. Mais d'un point de vue pragmatique, il était difficile de contester l'intérêt de l'approche plus conciliante adoptée par Baucus. Il aurait été absolument impossible d'obtenir le soutien de 60 sénateurs pour faire passer une réforme d'ampleur du système de santé sans nous prévaloir de l'assentiment, fût-il tacite, des principaux acteurs du secteur. La réimportation des médicaments était une question politique cruciale, mais que cela nous plaise ou non, nous ne disposions pas des voix nécessaires pour faire voter une telle clause. Notamment parce que bon nombre de démocrates représentaient des États dans lesquels de grandes industries pharmaceutiques avaient établi leur siège ou constitué un pôle d'activité économique majeur. Conscient de tous ces paramètres, j'ai donné mon accord pour que Ram, Nancy Ann et Jim Messina, qui avaient fait partie du staff de Baucus autrefois, assistent aux négociations menées par Baucus avec les représentants de l'industrie de la santé. À la fin du mois de juin, ils étaient parvenus à un accord qui nous garantissait un apport de plusieurs centaines de milliards de dollars sous la forme de ristournes et de baisse des prix sur un nombre accru de médicaments pour les personnes âgées affiliées au régime Medicare. Autre victoire, non moins importante, ils avaient obtenu des hôpitaux, des assureurs et des compagnies pharmaceutiques qu'ils s'engagent à soutenir le futur projet de loi, ou du moins qu'ils ne s'y opposent pas. Nous avions ainsi franchi un gros obstacle et démontré au passage que la politique était d'abord et avant tout l'art du possible. Toutefois, pour certains démocrates parmi les plus à gauche à la Chambre des représentants, où personne n'avait à s'inquiéter d'une possible manœuvre d'obstruction parlementaire, ainsi que pour certains groupes d'intérêts progressistes qui espéraient encore préparer le terrain en vue d'instaurer un régime unique de remboursement des soins, nos compromis équivalaient à une capitulation pure et simple, à un pacte avec le diable. Et pour ne rien arranger, comme l'avait prédit Ram, aucune de nos réunions avec les acteurs du secteur de la santé n'avait été retransmise sur la chaîne des débats parlementaires, si bien que la presse a commencé à parler de « négociations en sous-main ». De nombreux électeurs ont écrit à la Maison-Blanche pour savoir si j'étais passé du côté obscur de la force. Et Henry Waxman s'est empressé de faire savoir qu'il ne se sentait tenu en rien par les concessions que Baucus ou la Maison-Blanche avaient pu consentir au lobby industriel. Si les démocrates de la Chambre des représentants sont tout de suite montés sur leurs grands chevaux, Ils étaient par ailleurs tout à fait disposés à protéger le statu quo lorsque leurs prérogatives étaient menacées ou qu'ils bénéficiaient à des franges influentes de l'électorat. Par exemple, tous les économistes spécialistes de la santé s'accordaient à dire qu'il n'était pas suffisant de ponctionner les profits des assurances et des compagnies pharmaceutiques et d'utiliser cet argent afin d'étendre la couverture maladie. Pour que la réforme fonctionne, il fallait aussi s'attaquer à l'augmentation en flèche des tarifs pratiqués par les médecins et les hôpitaux. Autrement, l'argent réinjecté dans le système finirait avec le temps par financer de moins en moins de soins pour de moins en moins de monde. L'une des meilleures façons de faire baisser la courbe des tarifs était d'établir un comité indépendant, détaché de tout intérêt politique et des lobbies, chargé de fixer la grille tarifaire du régime Medicare, calculée sur la base de l'efficacité comparative de tel ou tel soin spécifique. Les démocrates de la Chambre détestaient cette idée. Cela signifiait qu'ils n'auraient plus le pouvoir de déterminer ce que Medicare couvrait et ne couvrait pas, et qu'ils perdraient au passage la capacité de récolter des fonds de campagne que leur octroyait ce pouvoir. Ils avaient peur également de se voir fustigés par des personnes âgées, mécontentes de ne plus avoir accès aux tout derniers médicaments ou tests diagnostiques vantés à la télévision, même si un expert leur démontrait que c'était une dépense inutile. Ils étaient tout aussi sceptiques à l'égard de l'autre grande proposition avancée pour contrôler les coûts. Un plafonnement des déductions fiscales sur les assurances Cadillac, des polices extrêmement chères fournies par l'employeur, qui couvraient toutes sortes de prestations mais n'amélioraient pas les résultats en matière de santé. Hormis les grands patrons et les hauts revenus, le principal groupe concerné par ce type d'assurance était celui des travailleurs syndiqués, et les syndicats étaient vent debout contre ce qu'on allait bientôt surnommer la « taxe Cadillac ». Peu importait aux leaders syndicalistes que leurs adhérents préfèrent renoncer à une chambre de luxe à l'hôpital ou à une deuxième IRM superflue en contrepartie d'une hausse de leur salaire net. Ils doutaient que les économies réalisées grâce à la réforme iraient dans la poche de leurs adhérents, et ils étaient absolument certains que toute modification de leur police d'assurance maladie provoquerait une levée de boucliers. Et malheureusement, tant que les syndicats s'opposeraient à la taxe Cadillac, les élus démocrates y mettraient eux aussi leur veto. La presse a bientôt eu vent de ces querelles, ce qui a donné l'impression d'un grand cafouillage. Fin juillet, des sondages montraient qu'une majorité d'Américains désapprouvaient la façon dont je menais la réforme du système de santé. J'ai fait part à Axe de ma frustration quant à notre stratégie de communication. « Nous sommes sur la bonne voie », lui ai-je dit avec fermeté, « mais il faut qu'on l'explique mieux aux électeurs. » Axe n'était manifestement pas très content de se voir reprocher un problème contre lequel il m'avait précisément mis en garde dès le départ. « Tu peux le leur expliquer tant que tu voudras », m'a-t-il rétorqué. « Mais les gens qui ont déjà une assurance ne voient pas en quoi cette réforme leur sera bénéfique, et on aura beau aligner des chiffres et des données, ça ne changera rien. » Je n'en étais pas aussi certain. Aussi ai-je décidé de monter au créneau pour défendre notre plan. J'ai donc tenu une conférence de presse en prime time sur la question du système de santé, dans le salon Est de la Maison-Blanche, face à un parterre de journalistes accrédités, dont bon nombre s'affairaient déjà à rédiger la nécrologie de ma toute première initiative législative. En général, j'aimais bien le côté improvisé des conférences de presse retransmises en direct. Et contrairement à ce qui s'était passé lors du premier débat public consacré à ce même sujet durant la campagne, au cours duquel je m'étais royalement planté tandis que Hillary et John Edwards faisaient un sans-faute, cette fois, je maîtrisais parfaitement le dossier. Je le maîtrisais peut-être même trop bien. Pendant cette conférence de presse, je suis retombé dans mes vieux travers, livrant des explications exhaustives sur chacun des aspects de la question à l'ordre du jour. Comme si, n'ayant pu obtenir que les diverses négociations menées dans le cadre de ce projet de loi soient diffusées sur C-SPAN, j'essayais de compenser en proposant au public une heure de cours de rattrapage pointu sur le système de santé américain. La presse n'a guère apprécié mon zèle. Dans son compte-rendu, l'un des journalistes présents a souligné que j'avais parfois adopté un ton professoral. C'est peut-être ce qui explique que, lorsque j'ai accepté de répondre à une dernière question, Lynn Sweet, une journaliste de longue date au Chicago Sun-Times, que je connaissais depuis des années, a décidé de m'interroger sur un sujet qui n'avait absolument rien à voir. Récemment, a-t-elle dit, le professeur Henry Louis Gates a été arrêté chez lui à Cambridge. Qu'est-ce que cet incident vous inspire? Et que dit-il de la question raciale aujourd'hui en Amérique? Par où commencer? Henry Louis Gates était professeur de lettres à Harvard et l'un des plus éminents spécialistes de littérature afro-américaine de tout le pays. C'était aussi un ami. Sans être proche, nous nous croisions souvent en société. Un peu plus tôt cette semaine-là, de retour d'un voyage en Chine, Gates n'avait pas réussi à ouvrir la porte de sa maison qui semblait grippée. Un voisin, ayant vu Gates essayer de forcer la porte, avait appelé la police pour signaler une possible tentative d'effraction. Dépêché sur les lieux, le sergent James Crowley avait demandé ses papiers à Gates. Celui-ci avait refusé de les présenter et, d'après le témoignage de Crowley, accusait le policier de racisme. Puis Gates avait fini par obtempérer, mais il avait continué, toujours selon Crowley, d'invectiver ce dernier alors qu'il s'apprêtait à partir. Après l'avoir prié de se calmer, en vain, Crowley, ainsi que deux autres agents de police qu'il avait appelés en renfort, avaient passé les menottes à Gates et l'avaient emmené au poste, en état d'arrestation pour trouble à l'ordre public, une accusation très vite levée par la suite. Comme on pouvait s'y attendre, cet incident avait attiré l'attention des médias nationaux. Pour une grande partie de l'Amérique blanche, l'arrestation de Gates, qui s'était montré irrespectueux à l'égard des forces de l'ordre au cours d'un contrôle de routine, était entièrement légitime. Pour les Noirs, ce n'était qu'un énième exemple des humiliations et des inégalités, petites et grandes, que leur faisait subir la police en particulier et toute forme d'autorité blanche en général. J'avais pour ma part le sentiment que ce qui s'était passé relevait de quelque chose de plus spécifique et de plus humain que la simple fable édifiante sur les rapports entre blancs et noirs. Ayant vécu à Cambridge, je savais que les services de police de cette ville n'avaient pas la réputation d'être un repère de suprémacistes à la Bull Connor. De son côté, Skip, ainsi que ses amis surnommés Gates, étaient aussi fort en gueule que brillants. Moitié W.E.B. Dubois, moitié Mars Blackmon, personnage excentrique du réalisateur Spike Lee. Capable d'une certaine insolence, et je n'avais aucun mal à l'imaginer agonir d'insultes la police au point de faire sortir de ses gonds même le plus pacifique des représentants des forces de l'ordre. Quoi qu'il en soit, même si personne n'avait été blessé, je trouvais toute cette histoire démoralisante. Elle nous rappelait de manière cruelle que, même pour les Noirs ayant réussi à se hisser au sommet de la société, et même dans les quartiers blancs les plus tolérants, il demeurait impossible d'échapper aux ombres héritées de notre histoire raciale. Quand j'avais appris ce qui était arrivé à Gates, m'étaient revenus en mémoire, presque malgré moi, tous les incidents similaires que j'avais pu moi-même connaître. Toutes les fois où l'on m'avait demandé ma carte d'étudiant quand je me rendais à la bibliothèque sur le campus de Columbia, ce qui n'arrivait jamais à mes condisciples blancs. Toutes les fois où je m'étais fait contrôler au volant, sans aucune raison particulière, en traversant tel ou tel quartier chic de Chicago. Toutes les fois où j'avais été suivi à la trace par un agent de sécurité dans un grand magasin où j'étais venu faire mes courses de Noël. Le son des portières de voiture qui se verrouillaient sur mon passage quand je traversais la rue, en costume cravate, en pleine journée. Ce genre d'expérience était monnaie courante pour tous les Noirs que je connaissais, que ce soit des amis proches, de vagues connaissances ou les quidam croisés chez le barbier au coin de la rue. Si vous étiez pauvre, issu des classes populaires, ou que vous viviez dans un quartier défavorisé, ou encore si vous ne montriez pas tous les signes extérieurs du noir respectable, ces incidents prenaient en général une tournure beaucoup plus grave. Pour quasiment tous les hommes noirs de ce pays, et pour toutes les femmes amoureuses d'un homme noir, et pour tous les parents d'un enfant noir, ce n'était pas être paranoïaque, jouer la carte raciale ou manquer de respect aux forces de l'ordre, que d'arriver à la conclusion que, quoi qu'il se soit passé par ailleurs ce jour-là à Cambridge, une chose était certaine. S'il avait été blanc, jamais un professeur de Harvard, renommé et fortuné, un homme âgé de 58 ans qui mesurait 1m70, pesait 65 kilos et marchait avec une canne à cause d'une blessure à la jambe remontant à l'enfance, n'aurait été menotté et emmené au poste au prétexte qu'il s'était montré injurieux envers un policier qu'il avait semé de lui présenter ses papiers sur le seuil de sa propre fichue maison. Bien entendu, je n'ai pas formulé les choses ainsi. Peut-être aurais-je dû. J'ai préféré répondre à la question de Lynn Sweet par quelques remarques à mes yeux assez anodines, en commençant par souligner que la police avait réagi de manière appropriée en se rendant sur les lieux après que l'alerte avait été donnée par le voisin, puis en précisant que Gates était un ami, ce qui pouvait jouer sur mon objectivité. J'ignore, n'ayant pas assisté à la scène et ne disposant pas de tous les éléments, quel rôle a pu jouer la couleur de peau dans cette histoire, ai-je déclaré. Mais je pense qu'il n'est pas exagéré de dire que, premièrement, n'importe lequel d'entre nous aurait pu perdre son sang-froid dans des circonstances similaires. Deuxièmement, que la police de Cambridge a agi de manière stupide en appréhendant quelqu'un qui avait déjà fourni la preuve que cette maison était la sienne. Et troisièmement, je crois que nous sommes tous conscients, indépendamment de cet incident particulier, que les Afro-Américains et les Latinos de ce pays font depuis très longtemps l'objet d'arrestations policières dans une mesure disproportionnée. Je m'en suis tenu là. En sortant de la conférence de presse ce soir-là, je pensais que les 4 minutes passées à commenter l'affaire Gates ne seraient traitées que comme un bref aparté dans le discours d'une heure que j'avais consacré à la réforme du système de santé. Eh bien, je me trompais du tout au tout. Le lendemain, mes propos sur la stupidité de la police faisaient la une de toutes les matinales. Les porte-parole des syndicats policiers, estimant que j'avais insulté l'agent Crowley et les forces de l'ordre en général, exigeaient des excuses. Des sources anonymes affirmaient qu'on avait tiré des ficelles en haut lieu pour que les accusations portées contre Gates soient levées sans passer par la case tribunal. Les médias conservateurs s'en donnaient à cœur joie, interprétant mes propos comme l'exemple typique du président noir élitiste, professoral et prétentieux, qui prenait la défense de son copain de Harvard, grande gueule et prompt à dégainer la carte raciale, aux dépens d'un policier blanc issu des classes populaires qui n'avait fait que son travail. Lors du point presse quotidien à la Maison-Blanche, les journalistes ont interrogé Gibbs presque exclusivement sur ce sujet. Il est venu me voir ensuite pour me demander si j'envisageais de publier un communiqué pour clarifier mes propos. « Qu'est-ce que je devrais clarifier ?» lui ai-je rétorqué. « Il me semble que j'ai été suffisamment clair. » Vu la tournure des commentaires, les gens pensent que vous accusez les policiers d'être stupides. Je n'ai pas dit qu'ils étaient stupides, j'ai dit qu'ils avaient agi de manière stupide. Nuance. Oui, j'ai bien compris, mais on ne clarifie rien du tout, ai-je tranché. Toute cette histoire va retomber d'elle-même. Mais le lendemain, elle n'était pas retombée du tout. Bien au contraire, elle avait complètement éclipsé tout le reste, y compris notre message sur la réforme du système de santé. Assaillie de coups de fil inquiets de la part des démocrates du Congrès, Ram était au bord de la crise de nerfs. On aurait dit que j'étais arrivé à cette conférence de presse vêtu d'un boubou africain et que j'avais moi-même lancé un tombereau d'injures contre la police. J'ai fini par accepter de monter en ligne pour limiter les dégâts. J'ai d'abord appelé le sergent Crowley pour lui dire que j'étais désolé d'avoir employé le terme « stupide ». Il a réagi avec beaucoup d'humour et d'élégance et à un moment, au cours de notre conversation, j'ai suggéré qu'il vienne avec Gates me rendre visite à la Maison-Blanche. Nous pourrions nous retrouver tous les trois autour d'une bière, lui ai-je dit, et montrer au pays que les gens de bonne volonté étaient capables de passer outre les malentendus. Crowley était enchanté par cette idée, tout comme Gates, que j'ai appelé juste après. Lors d'un point presse, plus tard ce même jour, j'ai dit aux journalistes que je persistais à croire que les policiers avaient réagi de manière excessive en arrêtant Gates, de même que le professeur avait réagi de manière excessive en les voyant débarquer chez lui. J'ai reconnu que j'aurais pu formuler mes remarques avec plus de tact. J'apprendrai bien plus tard, de la bouche de David Simas, notre gourou des sondages à la Maison-Blanche et adjoint d'Axe, que l'affaire Gates avait provoqué une chute vertigineuse de ma cote de popularité dans l'électorat blanc, la plus forte jamais enregistrée au cours de mes 8 années de mandat. Je ne réussirai jamais tout à fait à récupérer les soutiens que j'avais perdus à cette occasion. 6 jours plus tard, le sergent Crowley, Skip Gates, Joe Biden et moi-même, nous sommes retrouvés à la Maison-Blanche pour une rencontre amicale, informelle, et légèrement guindé, qu'a bientôt été surnommé le sommet de la bière. Comme je m'y étais attendu à la suite de notre conversation téléphonique, Crowley s'est révélé un homme pondéré et d'une grande politesse, et Skip s'est tenu de façon irréprochable. Pendant une petite heure, nous avons parlé tous les quatre de notre enfance, de notre travail, et de la manière dont nous pourrions nous y prendre pour améliorer la confiance et la communication entre les forces de police et la communauté afro-américaine. À la fin de la réunion, Crowley et Gates nous ont remerciés pour la petite visite de la Maison-Blanche que mon équipe avait fait faire à leurs familles respectives. La prochaine fois, leur ai-je répondu sur le ton de la plaisanterie, j'espérais qu'ils trouveraient un moyen plus simple pour se faire inviter. Après leur départ, je suis resté seul dans le bureau ovale et j'ai réfléchi à toute cette affaire. Michel, certains de nos amis comme Valérie et Marty, de hauts fonctionnaires noirs tels que le procureur général Eric Holder, Susan Rice, l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, ou encore Ron Kirk, le représentant des États-Unis pour les affaires commerciales, nous connaissions tous le parcours du combattant par lequel il fallait en passer pour se faire une place au sein d'institutions dont les membres étaient blancs dans leur immense majorité. Nous avions appris à ne pas réagir face aux vexations triviales, toujours disposés à accorder le bénéfice du doute à nos collègues blancs, conscients qu'aborder la question du racisme, même avec la plus extrême prudence, était susceptible de déclencher chez eux une légère panique. Néanmoins, la réaction provoquée par mes propos sur l'affaire Gates nous avait tous surpris. J'ai véritablement compris pour la première fois à quel point les relations entre les Noirs et les forces de l'ordre étaient un sujet clivant, plus que n'importe quel autre aspect de la société américaine. Cette question semblait remuer quelque chose de profondément enfoui dans l'âme de la nation, toucher l'un de ses nerfs les plus sensibles. Peut-être parce qu'elle nous rappelait à tous, quelle que soit notre couleur de peau, que l'ordre social de notre pays n'était pas uniquement fondé sur la cohésion, qu'il avait aussi à voir avec l'histoire des violences infligées par les Blancs aux Noirs et autres minorités visibles pendant des siècles avec l'assentiment de l'État, et que l'enjeu que constituait l'exercice légitime de la violence, déterminer qui l'exerçait, par quels moyens et contre qui, était profondément ancré dans notre esprit tribal, bien plus que nous n'étions prêts à l'admettre. J'ai été interrompu dans mes réflexions par Valérie, venue voir comment je prenais les choses. La réaction des médias au sommet de la bière avait été positive dans l'ensemble, même si elle m'a avoué avoir reçu quelques coups de téléphone de certains de mes partisans au sein de la communauté noire, qui n'étaient pas très contents. « Ils ne comprennent pas pourquoi on s'est mis en quatre pour dérouler le tapis rouge à Crowley », a-t-elle dit. « Et tu leur as répondu quoi ?»« Que toute cette histoire était une perte de temps, et que tu voulais pouvoir te concentrer sur les affaires du pays et sur la réforme du système de santé. » J'ai hoché la tête. « Et les Noirs, ici, dans l'équipe, comment ils réagissent ?» Valérie a haussé les épaules. « Les plus jeunes sont un peu dépités, mais ils comprennent. » Simplement, avec tout le boulot que tu as à faire, ça ne leur plaît pas trop de te voir confronté à ce genre de situation. Quelle situation, ai-je demandé. Le fait d'être noir ou le fait d'être président? Ce qui nous a bien fait rire tous les deux.